Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le quatrième dimanche. Il vient à Nazareth, où il a été élevé. Selon son habitude, il entre à la synagogue le jour du sabbat. Il se lève pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète Isaïe. Il le déroule et il trouve le passage où il est écrit « Le souffle spirituel du Seigneur Dieu est sur moi, car il a fait de moi son Messie, pour annoncer un message de bonheur aux pauvres. » Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers et le retour à la vue aux aveugles, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer l'an de grâce du Seigneur. Ayant roulé le livre, il le rend au servant et s'assoit. Dans la synagogue, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors, il se met à leur dire :
Cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui pour vous qui l'écoutez.
Et tous lui rendent témoignage. Ils sont surpris des propos sur la grâce qui sortent de sa bouche, et ils disent
« N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là ?»
Alors il leur dit
« À coup sûr, vous allez me dire ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, dont nous avons entendu parler, fais-le aussi ici, dans ta patrie. »
Et il ajoute
« Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est accueilli dans sa patrie. Amen, je vous le dis, au temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël, lorsque le ciel demeura fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Mais Élie ne fut envoyé à aucune d'entre elles, sinon à une veuve, à Sarepta de Sidon. Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël sous Élisée le prophète, mais aucun d'entre eux n'a été guéri, sinon Naaman le Syrien. »
Dans la synagogue, tous sont remplis de colère en entendant cela. Les gens se lèvent et l'expulsent hors de la ville. Ils le mènent jusqu'à un sommet de la colline sur laquelle leur ville est bâtie, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, suit son chemin.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui pour vous qui l'écoutez. Qu'est-ce qui précisément s'accomplit? La mission du Messie ou son rejet par les gens de son pays? Comment comprendre ces références à Élie et Élisée?
Eh bien voici un texte de Luc qui est comme une sorte de discours-programme. Il se situe en effet au tout début du ministère de Jésus, après le récit des tentations. On se souviendra que le récit des tentations est lui-même une sorte de résumé, celui des choix que Jésus fera tout au long de sa mission, et des choix qui ne seront pas toujours faciles. En effet, quels moyens prendra-t-il pour convaincre ses auditeurs? Et qui le Messie doit-il être pour témoigner de Dieu? Est-ce qu'il doit être un prophète, un roi politique, un serviteur, le serviteur souffrant d'Isaïe? On trouvera ici comme en résumé le choix fait par Jésus et l'accueil qui va lui être fait par son peuple. En effet, Luc utilise des événements qui se sont produits à Nazareth, mais il s'en sert pour décrire une situation plus générale, à savoir comment le peuple juif va accueillir Jésus et son message. La visite de Jésus à Nazareth ne s'est probablement pas passée au tout début de son activité. En effet, les récits de Matthieu et de Marc situent cette visite plus tardivement. Et Luc lui-même fera dire aux gens de Nazareth « Ce que tu as fait à Capharnaüm, fais-le aussi ici. » C'est donc un indice que Jésus a déjà eu des activités avant cette visite à Nazareth et que cette visite n'est donc pas sa première manifestation comme prédicateur itinérant. Cependant, il nous faut prendre le récit de Luc tel qu'il est si nous voulons comprendre le sens que l'évangéliste lui donne. L'évangile de dimanche dernier nous a donné la première partie du récit. Jésus se rend à la synagogue de Nazareth, le village de son enfance et de sa jeunesse. On sait que la synagogue est le lieu de prière qui rassemble les gens chaque sabbat. Le sabbat rythme la semaine et ouvre ainsi régulièrement un espace communautaire à la réflexion et à la prière. En semaine, la synagogue servira d'école pour les jeunes garçons. Souvenons-nous aussi que pour ouvrir une synagogue, il faut un minimum de 10 juifs de plus de 13 ans. Jésus a donc satisfait régulièrement à ce rite sacré de la semaine. Lors du culte à la synagogue, on fait lecture de passages de la Torah et des prophètes, et il est habituel que le chef de la synagogue offre à des rabbis de passage de commenter un texte. Dans le livre des Actes des Apôtres, on verra Paul user de ce privilège pour faire connaître Jésus et son message.
Le jour du sabbat, Paul et ses compagnons entrèrent dans la synagogue. Après la lecture de la Torah et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'exhortation à adresser au peuple, prenez la parole. »
Eh bien, ce jour-là, à Nazareth, Jésus choisit un passage du livre d'Isaïe. Le prophète y annonçait alors à ses compatriotes qui étaient exilés à Babylone que leur retour en Israël serait comparable à l'an de grâce. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'an de grâce ? On en trouve la description au chapitre 25 du livre du Lévitique. Cet an de grâce devait avoir lieu tous les 50 ans. Alors, les dettes de tous devaient être remises. Les esclaves devaient être libérés, les propriétés hypothéquées devaient être rendues à leurs propriétaires d'origine. Cette situation, annoncée par Isaïe, ne s'est peut-être pas réalisée pleinement. L'oracle du prophète était alors repris pour annoncer ce que devrait être la tâche du Messie. L'homme consacré par Dieu pour être son roi, le Messie, devrait accomplir ce programme, libérer les esclaves, redonner la liberté aux opprimés. Cette grâce, comme on dit « faire grâce à quelqu'un », devait aussi s'entendre au plan spirituel. Dans le langage biblique, on sait que le péché est appelé une dette. La traduction d'ailleurs littérale du Notre Père le dit en Matthieu « Remets-nous nos dettes comme nous avons remis à ceux qui nous devaient ». Ce que notre traduction liturgique traduit « Pardonne-nous nos fautes ». Eh bien, cette remise des dettes était aussi remise des dettes spirituelles, des dettes morales, était aussi un des axes de l'an de grâce.
Ils sont surpris des propos sur la grâce qui sortent de sa bouche.
« Dieu fait grâce, dit Jésus, et cela s'accomplit aujourd'hui. » Souvenons-nous du message de Jean-Baptiste. Lui aussi annonçait que Dieu allait choisir un Messie pour rétablir la situation de son peuple. Mais Jean, lui, parlait plutôt du jour de la colère de Dieu, plutôt que de l'an de grâce. Jour de la colère de Dieu où tous les malfaisants allaient être punis. L'oracle d'Isaïe parlait aussi de ce jour de jugement, de colère. Mais Jésus semble avoir arrêté le texte précisément avant ce verset. Le verset qui suivait le texte qu'il a lu était ainsi « Le Seigneur m'a envoyé proclamer le jour de la vengeance de notre Dieu ». Eh bien, Luc résume ainsi ce que va être l'évangile de Jésus, son interprétation de la Torah. « Dieu est amour et il est pardon » avant d'être le Dieu vengeur. Sa miséricorde se manifeste envers tous, qu'ils soient bienfaisants ou malfaisants. La prédication de Jésus viendra d'ailleurs expliciter cela dans des exemples très forts.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, les pécheurs eux-mêmes en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les malfaisants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Le Dieu de Jésus n'est donc pas d'abord le juge punisseur, mais avant tout le Père qui aime et pardonne. La parabole de l'enfant prodigue en donnera d'ailleurs une très belle illustration. Cette interprétation de la Torah, eh bien voilà ce qui fait précisément l'émerveillement des auditeurs de Jésus. Ce sera aussi ce qui fera le succès de Jésus dans les premiers temps de sa mission. Jésus va traduire concrètement cette miséricorde du Père à travers ses gestes de guérison et ses gestes de pardon. Eh bien, illustrons cette miséricorde par un beau texte d'un Anglais du XVIe siècle, Lancelot Andrews, qu'il intitule d'ailleurs « Acte de plaidoirie adressé à Dieu ».
Ta miséricorde qui est multiple, grande, abondante, éternelle, débordante. Ta miséricorde grâce à laquelle nous ne sommes pas anéantis, qui prévient, suit, entoure, pardonne, est tendre, douce, pardonnant jusqu'à 77 fois cette fois, ne haïssant rien de ce qu'elle a fait, ne voulant pas qu'aucun périsse, ramenant sur l'épaule la brebis égarée, balayant la maison à la recherche de la rame perdue, remettant les 10 000 talents, bandant les plaies de l'homme laissé à demi-mort, allant joyeusement à la rencontre du fils prodigue, qui accueillit Pierre après son reniement, délivra la femme surprise en adultère, accueillit Marie-Madeleine, ouvrit le paradis au larron, se tient à la porte et frappe. Miséricorde, dont le temps est le jour du salut. J'ai différé de me repentir, mais tu as prolongé ta patience par miséricorde, ô toi l'inépuisable source. À tout coup, vous allez me dire ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même ». Tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, dont nous avons entendu parler, fait l'œil aussi ici, dans ta patrie.
Oui, bien il semble que l'enthousiasme des auditeurs n'a été que passager. Alors comment comprendre cela? Est-ce à cause de la jalousie des gens de Nazareth qui étaient frustrés parce que Jésus avait choisi Capharnaüm comme centre de ses activités? Bon, cela se pourrait car Capharnaüm était une petite cité, mais elle était beaucoup plus importante que Nazareth, qui ne comptait que quelques dizaines de familles. La suite du texte va élargir la question. Jésus va donner des exemples qu'il tire des Écritures saintes pour montrer que Dieu ne prodigue pas seulement sa miséricorde aux Juifs. Il leur cite donc l'exemple d'Élie qui aida une veuve habitant Sarepta dans le territoire païen de Sidon. Et l'autre exemple d'Élisée, qui guérit un autre païen, Naaman, un Syrien. Dieu donc ne limite pas son amour aux membres de son peuple, il l'étend à tous les humains de quelque race, langue ou classe soit-il. C'est d'ailleurs la définition même de la miséricorde. Écoutons comment un dominicain, Louis-Joseph Lebret, décrit cette miséricorde.
Les chrétiens ne réfléchissent sans doute pas assez sur la béatitude de la miséricorde. Il ne s'agit pas d'une simple pitié, ou même d'une souffrance ressentie à la rencontre d'un être malheureux. La miséricorde, c'est la prise de la misère de l'autre dans son cœur. C'est la misère de l'autre qui devient nôtre, d'abord comme une brûlure profonde, mais tout de suite comme une exigence d'action. La misère de l'autre, il s'agit de l'affliger par toute misère. Celui qui a faim, celui qui n'est pas vêtu, celui qui n'est pas logé, celui qui est infirme, celui qui est malade, celui qui est chômeur. Le pauvre d'esprit, le mal doué, l'irrésolu, l'ignorant. Le méprisé, le délaissé, le trahi. Celui qui est sans ami, sans au moins un ami. Le clochard, l'ivrogne, le désespéré. mais aussi le riche égoïste, le savant si spécialisé qu'il oublie l'essentiel, le vaniteux plein de soi, l'orgueilleux qui cherche la gloire, le dominateur qui opprime. Chaque homme, par quelque point, est un miséreux. Et c'est pour cela qu'il faut tous les loger dans son cœur. Et par là, ressembler chaque jour plus au Christ, qui logea dans son cœur toutes les misères de tous les hommes.
Mais alors, si la miséricorde de Dieu s'étend à tous, aux bons et aux pécheurs, voilà qu'aux yeux des gens de Nazareth, un des piliers de la religion s'effondre. En effet, pour beaucoup, la religion consiste à faire le bien pour mériter le salut. C'est sans doute le besoin de sécurité, un besoin qui est fondamental à tout être humain, qui nous pousse à penser ainsi notre relation avec Dieu. En respectant scrupuleusement les règles dictées par Dieu, je pense que je vais être assuré de sa bienveillance. D'ailleurs, n'agissons-nous pas ainsi les uns envers les autres? Cette relation, régie par la justice, par le donnant-donnant, nous semble peut-être moins exigeante et plus sécure que celle qui est régie par la miséricorde, du moins si l'on regarde de son propre côté. Alors, voir Dieu donner sa grâce sans condition fragilise peut-être notre relation avec lui. À quoi sert-il de faire tant d'efforts, d'aller chaque sabbat à la synagogue, de jeûner, de faire l'aumône, de payer sa dîme, si Dieu en effet guérit et prodigue ses bienfaits à celui qui ne croit même pas en lui? Jacques Duquesne, auteur du livre « Le Dieu de Jésus », s'exprime ainsi.
J'ai réalisé que la vision archaïque de Dieu existait toujours dans la tête des gens. Si vous leur demandez qui est Dieu, vous verrez qu'ils ont à peu près la même vision qu'on pouvait avoir il y a 4000 ans, c'est-à-dire celle d'une puissance cachée, superpuissante, dont il faut se concilier la bienveillance. Souvent, on leur a présenté Dieu comme un Dieu justicier. Cela vient beaucoup de l'Ancien Testament. Certains textes présentent parfois un Dieu qui surveille tous vos actes, qui fait la comptabilité de toutes vos actions, même de toutes vos pensées. C'est une vision terrible. Et c'est un peu dommage qu'on n'explique pas dans les homilies des messes que cela a été écrit à telle époque de l'histoire juive et que cela peut se comprendre pour telle et telle raison. Cela ne correspond pas du tout à ce que Jésus a annoncé, à ce qu'est le Dieu de Jésus. Dans la synagogue, tous sont remplis de colère.
Eh bien, quel est donc le Dieu de Jésus? Il nous est décrit dans les paraboles. Il est ce patron qui paye le même salaire ceux qui ont travaillé une heure et ceux qui ont porté le poids de la chaleur toute la journée. Il est le père qui fait tuer le plus beau veau de l'étable pour un fils qui a quitté la maison et dépensé toute sa part d'héritage en folie et qui ne donne même pas un chevreau à l'aîné qui a toujours été correct. Il est le Dieu qui accueille les publicains qui sont des collaborateurs et des voleurs et qui critique les gens pieux comme les pharisiens. Peut-être que ce Dieu-là nous apparaît injuste. Et ne serait-ce pas d'ailleurs cette image d'un Dieu qui leur paraît injuste, qui va conduire les gens de Nazareth à la colère contre ce prédicateur dérangeant et déraisonnable? Ne considère-t-il pas alors comme une semblable injustice que Jésus ait préféré Capharnaüm à Nazareth? N'y avait-il pas d'ailleurs dans cette cité de Capharnaüm un publicain, Matthieu et des soldats romains païens, alors que Nazareth ne devait compter que des juifs pieux et fidèles? Pour certains, et notamment pour les chefs juifs et certains pharisiens, ceux qui étaient l'élite religieuse, donner ainsi l'image d'un Dieu qui aime les bons comme les mauvais, cela leur semblait encourager les pécheurs, ça leur semblait saper les bases de l'ordre moral. La hargne du pharisien Saül, le futur Paul, contre les chrétiens et contre leur maître, s'explique ainsi. Paul était fier de son appartenance au peuple d'Israël et de sa fidélité aux règles de la Torah.
Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, pour la Torah, pharisien pour le zèle, persécuteur de l'Église, pour la droiture qu'on trouve dans la Torah, devenu irréprochable.
Il faudra que Paul fasse la rencontre du ressuscité, pour qu'il prenne conscience que Dieu a donné raison à ce maître Jésus, puisqu'il l'a sauvé de la mort.
Toutes ces choses, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ, afin d'être trouvé en lui, non plus avec une droiture à moi, qui vient de la Torah, mais avec une droiture qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi.
Mais peut-être encore plus profondément, cette colère vient de notre résistance à la miséricorde. Car si Dieu nous aime tous d'un amour miséricordieux, les justes comme les injustes, alors nous laisser aimer de cette manière nous conduit à aimer nous aussi avec la même miséricorde. Et aimer gratuitement, généreusement, est une exigence qui peut nous apparaître impossible. Et de là notre frustration et notre colère, à moins de faire comme l'apôtre Paul et de laisser vivre en nous Jésus pour vivre comme lui.
Ils le mènent jusqu'au sommet de la colline, sur laquelle leur ville est bâtie, pour le précipiter en bas.
Luc veut sans doute évoquer ce que sera la fin tragique de la vie de Jésus. C'est en effet également sur une colline, celle du Golgotha, et aux portes d'une ville, celle de Jérusalem, que Jésus sera mis en croix.
Mais lui, passant au milieu d'eux, suit son chemin.
Plutôt que de spéculer sur le comment de cette sortie de Jésus, comment a-t-il échappé à la foule en colère? N'est-ce pas un miracle qui montre la force de Jésus? Il me semble préférable de voir là un refrain qui décrit la présence de Jésus au milieu de son peuple, Jésus marchant vers l'accomplissement de sa mission et de son destin. Dans le livre des Actes, rédigé aussi par Luc, on trouve une semblable notation.
Dieu l'a oint de l'Esprit divin, lui qui a passé en faisant le bien, et en guérissant tous ceux qui étaient tombés aux mains du diable, car Dieu était avec lui.
Il a passé en faisant le bien, il a suivi son chemin. Les évangiles nous montrent que c'est toujours librement que Jésus va suivre son chemin, même si ce chemin le conduit à la mort de la croix.
Il me faut, aujourd'hui et demain, et le jour suivant, suivre mon chemin, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem.
On donne souvent comme conclusion de notre texte d'aujourd'hui que l'évangile a été refusé par le peuple juif. Le peuple juif représenté ici par les gens de Nazareth, et que cet évangile a ainsi été proposé au peuple païen. Le livre des Actes, d'ailleurs, viendra décrire cet aboutissement de la prédication de Jésus. Cependant, il ne faudrait pas opposer trop Israël et l'Église d'une façon simpliste et injuste. Ainsi, Israël serait le peuple d'un Dieu de justice, et le christianisme serait l'Église du Père de toute miséricorde. Ce serait un peu trop simple. En effet, il y a des pages merveilleuses de la Bible de Moïse qui décrivent la tendresse du Dieu miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour.
Le Seigneur Dieu passa devant Moïse et proclama « le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché. »
C'est donc qu'il y a des pages merveilleuses de la Bible de Moïse décrivant la tendresse de Dieu. Il y a aussi, malheureusement, de terribles pages chrétiennes qui parlent d'un Dieu vengeur et punisseur. Et il y a aussi de nombreux fils d'Israël qui croient en la miséricorde de Dieu et de nombreux baptisés en Jésus qui ne vivent que sous la crainte de Dieu. N'est-ce pas plutôt en chaque être humain que se trouvent mêlés le pharisien et le publicain, celui qui se fie en lui-même et se glorifie de sa droiture, et au contraire, celui qui se fie avant tout, surtout, en l'amour du Père et qui se laisse tout simplement aimer. Celui-là pourra redire pour lui-même cette belle méditation d'Auguste Valencin sur l'heure de la mort.
Les sentiments que je voudrais avoir à cette heure. Penser que je vais découvrir la tendresse. Il est impossible que Dieu me déçoive. L'hypothèse seule est énorme. J'irai à lui, je lui dirai, « Je ne me prévaux de rien, sinon d'avoir cru en votre bonté. » C'est bien là, en effet, ma force, toute ma force, ma seule force. Que les maîtres de la vie spirituelle disent ce qu'ils veulent, parlent de justice, d'exigence, de crainte. Mon juge à moi, c'est celui qui tous les jours montait sur la tour et regardait à l'horizon si l'enfant prodigue lui revenait. Celui qui craint n'est pas encore parfait dans l'amour. Je ne crains pas Dieu, mais c'est moins encore parce que je l'aime que parce que je me sais aimé de lui. Mais il faut que je fasse ce geste personnel d'accepter. Il y a de malheureux théologiens qui ont peur, sans se l'avouer, de faire Dieu trop bon. Il est bon, mais il n'est pas faible, qu'ils disent. Faible par amour, comme mon Père en est plus grand et plus beau. La croix me donne raison. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an, au feuillet ou bien aux cassettes. Vous nous trouverez aussi sur Internet. L'adresse de notre site, www.relaismontroyal.com. Relaismontroyal.com, Relais Mont-Royal en un seul mot et sans tiret.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et chères auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.